France Culture.
Entretien avec Francis Ponge par Philippe Solers. Aujourd'hui, 11e entretien. Rupture et révolution culturelle, un matérialisme sémantique, le pré.
Francis Ponge, nous avons essayé de parcourir dans vos textes une constellation qui est à la fois une constellation d'écriture, la position du texte, la position du scripteur, la position du lecteur, et une position que nous avons appelée cosmogonique, qui est celle joignant le fonctionnement du monde tel qu'il est créé dans vos textes par une sorte d'utopie permanente, de fiction permanente, mais en relation avec ce texte qui s'écrivant, de telle façon que nous avons parlé d'une disparition concomitante des choses du monde verbal et de celui qui se trouve à leur intersection. Je me rappelle une de vos expressions, vous m'avez dit souvent que, au fond, l'homme était là dans une sorte d'agonie, qu'il s'agissait simplement de surveiller cette agonie et de la surveiller de façon rigoureuse. Nous avons essayé aussi, vous avez dit, comment chaque chose, chaque élément du monde dit concret représentait une sorte d'erreur dans cette cosmogonie, mais en même temps de perfection achevée de cette erreur. Et je crois que ce qui a été important, ça a été de souligner comment le langage, la parole, l'écriture, se présentait à vous dans une fonction à la fois érotique et mortelle, c'est-à-dire que vous n'avez jamais passé sous silence le rôle profondément sexuel de l'écriture. C'est-à-dire que dans une fonction qui serait celle permanente, incessante de la mort et de la reproduction, de même que la parole se perpétue dans l'espèce humaine, passe d'un individu à l'autre et d'une société à l'autre, de même vous avez essayé de placer vos textes à ce croisement, à cette espèce d'effervescence de la reproduction et de la mort. Je voudrais que nous insistions, si vous voulez bien, sur l'aspect matérialiste d'une telle conception. Parce qu'il me semble que c'est cette conception matérialiste qui vous distingue absolument du contexte culturel de la littérature idéaliste et bourgeoise en général. Il me semble que c'est là une des choses les plus difficiles dans l'approche que nous pouvons faire de vos textes. Et je voudrais savoir si vous seriez d'accord avec l'expression « un matérialisme sémantique » qui a été employé à propos de vos textes. De ce matérialisme sémantique, il me semble que un texte comme Le Pré apporte la plus éclatante confirmation.
Oui. Au sujet, si vous voulez, de mon matérialisme, j'ai déjà pu dire combien les mots, les expressions verbales, me semblaient une réalité concrète, comportant toute l'évidence et l'épaisseur des choses du monde extérieur. Il s'agit donc en effet d'un matérialisme sémantique, puisque l'histoire des mots, de leur étymologie, des variations de signification qu'ils ont connues depuis qu'ils sont apparus dans le langage humain et même dans des langues antérieures à la nôtre, enfin par exemple dans le latin, avant d'être dans le français, c'est bien cela, n'est-ce pas, la sémantique, l'histoire des significations variées qu'un mot a pu prendre au cours de son histoire. Alors tout cela, comme les personnes ont des ancêtres, comme les mots ont aussi des ancêtres, et ils ont un arbre généalogique, enfin, qui est représenté souvent par les associations d'idées qu'il provoque, n'est-ce pas, chez le lecteur. Et de tout cela, je tiens compte. Il m'est arrivé de dire que le comble pour un texte serait que chacun des mots qui le composent puisse être pris dans chacune des acceptions successives que le mot a eu au cours de son histoire. C'est évidemment un comble et on ne peut pas y atteindre, mais on peut peut-être se demander le plus pour obtenir le moins, c'est-à-dire obtenir justement une sorte d'épaisseur de chaque vocable à l'intérieur du texte. Un texte ainsi compris est naturellement susceptible de plusieurs niveaux de signification. En ce qui concerne l'éros et la mort, et ce que vous appelez l'agonie, et c'est un mot en effet que j'ai employé, eh bien, j'ai dit, je crois aussi très souvent, au cours de ces entretiens, que la nécessité profonde, enfin ce qui amenait à franchir le silence, était évidemment le désir, et que ce désir était quelque chose quasi physiologique, biologique, n'est-ce pas, qui, par exemple, dans l'acte sexuel, oblige l'homme à remplir sa fonction, qui est une fonction de régénération. Et tout le monde conçoit que les dépenses que fait le corps physique au moment de l'acte de reproduction, eh bien, sont des pas vers la mort. Enfin, je crois que cela, c'est presque un lieu commun. Le rapport de l'éros et de Thanatos est donc évident. Et la mort, en ce sens, fait partie de la vie, naturellement. Et à de très nombreuses reprises, j'ai dit, quasi en propre terme, cela, et j'ai insisté sur le fait qu'il fallait, en quelque façon, mourir pour donner naissance à quelque chose ou à quelques personnes. Et je ne suis pas le premier à avoir conçu que la naissance du texte ne pouvait avoir lieu que par la mort de l'auteur. L'acte sexuel, l'acte de reproduction exige aussi la présence d'un autre. Eh bien, comme dans l'espèce, il faut que les deux meurent plus ou moins, n'est-ce pas, pour que la troisième personne, ici le texte, puisse naître. La deuxième personne, quant à moi, enfin, c'est évidemment la chose, l'objet qui provoque le désir et qui, lui aussi, meurt, si vous voulez, dans l'opération qui consiste à faire naître le texte. Donc, il y a mort à la fois de l'auteur et mort de l'objet du désir, mettons, de la chose, du prétexte de l'objet, pour que puisse naître le texte. Vous avez évoqué un de mes derniers textes paru sous le titre « Le Pré ». Peut-être y puis-je prendre l'exemple un peu de ce que nous venons de dire, en effet. J'ai d'abord eu une fois, et je pourrais situer exactement dans le temps et dans l'espace, une émotion me venant d'un pré, au sens de prairie, enfin. J'ai commencé à vouloir rendre compte, enfin, éterniser, si vous voulez, en quelque façon, par un texte, cette émotion, la garder en moi et pour moi, écrire cela de peur de ne pas le retrouver. J'ai donc commencé à écrire. Très vite, je me suis aperçu que ce mot, le mot lui-même, prêt, qui revenait dans mes notes, m'a semblé par lui-même non seulement intéressant, Enfin, a été pour moi comme une espèce d'obsession, le mot. Et ce mot, je n'ai pas pu faire autrement que de le retrouver à chaque instant dans les paroles que je disais ou qu'on me disait. Pourquoi ? Parce que ce monosyllabe « prêt » est aussi constamment dans la bouche des Français qui parlent. Il s'agit d'un préfixe qui est à chaque instant dans la bouche des gens, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas seulement du mot qui désigne le petit carré d'herbe qu'on peut voir, mais il s'agit d'un phonème, enfin, qui est à chaque instant dans la bouche des gens. Et alors, je suis allé au dictionnaire pour voir un peu ce que c'était que ça, le prêt. Et je me suis rendu compte rapidement que c'était en effet une des racines les plus importantes existantes en français. Pourquoi ? Parce que le prêt, alors le prêt, la prairie, vient du latin pratum, mais je remontais plus loin. Les étymologistes latins disent que pratum est une crase, comme on dit, pour paratum, c'est-à-dire ce qui a été préparé. Poussant plus loin encore et regardant ce que c'était que pré, P-R-E-S, ou que pré, P-R-E, accent circonflexe, T, etc., je me suis aperçu que tout cela venait d'une racine védique, la même, et que finalement, pré était un monosyllabe qui signifiait à la fois paratum, c'est-à-dire ce qui a été préparé. Et vous voyez que dans le mot préparé, il y a encore pré. Le participe passé par excellence, ce qui a été préparé pour l'homme, probablement, enfin, par la nature, pour qu'il connaisse, mettons, un certain repos, une certaine nourriture aussi, n'est-ce pas ? Puisque le pré, c'est le lieu de l'herbe, et que l'herbe, c'est le végétal à l'état élémentaire, et que nous mangeons de l'herbe, du fait même que nous mangeons du bœuf ou du mouton, hein, et que par conséquent, c'est antérieur à l'origine, c'est vraiment le participe passé de toute façon. Mais en même temps, il se trouve que ce préfixe signifie aussi tout ce qui va venir, n'est-ce pas ? C'est l'avenir, ce qui précède, enfin ce qui est en avant, n'est-ce pas ? Donc là, je me trouve à la racine de ce mot, tout à fait dans un contradictoire admirable, n'est-ce pas ? Qui représente à la fois le passé, le présent et l'avenir. À partir de là, j'ai continué à écrire mon texte, et je suis arrivé à une forme de telle façon que s'y confirme à la fois le désir, c'est-à-dire l'émotion que m'a causé ce prêt, et la mort, parce que aussi le prêt, comme je le dis dans mon texte, est à la fois le lieu de la palabre. La palabre, vous savez ce que c'est la parole, enfin, la discussion, les paroles. Et alors là, évidemment, est évoqué le pré au clair, l'endroit, par exemple, où les étudiants au Moyen-Âge venaient discuter, recevaient aussi les leçons de leurs professeurs, la palabre. Mais en même temps, le pré est encore autre chose. Eh bien, c'est le pré du duel. C'est le pré de l'action, on dit appeler quelqu'un sur le pré, c'est le pré de la décision, n'est-ce pas ? À ce moment-là, il arrive sur le pré deux personnages debout, qui croisent ensuite en oblique leurs épées, et finalement, au moins l'un des deux tombe à l'horizontale, n'est-ce pas ? Nous avons donc d'abord deux verticales, ensuite un duel oblique, et ensuite vous avez au moins un, et parfois les deux, qui tombe horizontalement sur le pré. Il s'agit tout simplement ensuite que l'un des deux, ou les deux, s'ils se sont enferrés mutuellement, eh bien, soient enterrés. Et alors, ils sont enterrés sous le pré, n'est-ce pas? Et nous avons encore le pré comme surface de la Terre sous laquelle se trouvent enterrés les deux verticales qui peuvent représenter aussi, comme je le disais tout à l'heure, à la fois l'auteur et la chose, enfin, parce qu'il est évident que le duel est un acte d'amour aussi, n'est-ce pas, et que le résultat est la mort des deux, et seulement le pré reste, n'est-ce pas, le pré est là, le pré est constitué. Je ne sais pas si j'ai le temps de lire quelques passages de ce texte, en voici un, par exemple, au début, ou mettons aussi bien par endroit, parfois notre nature. J'entends dire d'un mot la nature sur notre planète, comme on l'entend d'habitude, et ce que chaque jour à notre réveil nous sommes, c'est-à-dire on dit il a une belle nature, c'est un beau tempérament, etc. Enfin, notre nature nous a préparé un pré. Préparé un pré. Et plus loin, je signifie que ce fragment limité d'espace, guère plus grand qu'un mouchoir, n'est-ce pas, etc., nous semble très précieux. Pourquoi? Pourquoi ce prêt nous émeut-il, nous tient-il en quelque façon interdit? Serions-nous donc déjà parvenus au Naos? Vous savez, le Naos, enfin, c'est le lieu le plus sacré du temple, où seuls les prêtres ont accès, n'est-ce pas? Enfin, au lieu sacré d'un petit déjeuner de raison, n'est-ce pas? C'est-à-dire que là, il ne s'agit plus des raisons à proprement parler, hein? Naturellement, là est évoqué également le déjeuner sur l'herbe. Nous voici en tout cas au cœur des pléonasmes et au seul niveau logique qui nous convient. Crase de paratus, selon les étymologistes latins, près de la roche et du ruisseau. Prêt à faucher ou à paître, préparé pour nous par la nature, prêt, accent aigu, virgule, paré, virgule, prêt, encore accent aigu, et là c'est le préfixe, virgule, prêt, P-R-E, accent grave, S, virgule, prêt, P-R-E, accent circonflexe, T, le prêt, gisant ici comme le participe passé par excellence, s'y révère aussi bien comme notre préfixe des préfixes, vous voyez, il est toujours là, préfixe déjà dans préfixe, présent déjà dans présent. Pas moyen de sortir de nos onomatopées originelles, il faut donc y rentrer. Nul besoin d'ailleurs d'en sortir, leur variation suffisant bien à rendre compte de la merveilleusement fastidieuse monotonie et variété du monde, enfin de sa perpétuité. Et à la fin, j'en viens au tombeau, si vous voulez. Transporté tout à coup par une sorte d'enthousiasme paisible en faveur d'une vérité aujourd'hui qui soit verte, nous nous trouvions bientôt alités de tout notre long sur ce pré. Dès longtemps préparé pour nous par la nature, ou n'avoir plus égal qu'au ciel bleu. Il s'agit de l'homme qui est allongé sur le pré, mais là bien vivant. L'oiseau qui le survole en sens inverse de l'écriture, c'est-à-dire l'accent aigu, n'est-ce pas? Nous écrivons de gauche à droite, et ensuite nous revenons contradictoirement en sens inverse pour poser l'accent aigu, n'est-ce pas? L'oiseau qui le survole en sens inverse de l'écriture nous rappelle au concret. Et sa contradiction, comme je viens de dire, accentuant du pré, la note différentielle, quant à tel prés ou prêt ou prêt, P-R-A-I de prairie, c'est bien l'accent, accentuant du pré, la note différentielle, sonne brève et aiguë comme une déchirure dans le ciel trop serein des significations. C'est qu'aussi bien le lieu de la longue palabre peut devenir celui de la décision. Des deux pareils, si vous voulez, ce sont les deux pères, P-A-I-R-S, enfin les deux gentilshommes, n'est-ce pas? Des deux pères, pareils, arrivés debout, l'un au moins, après un assaut croisé d'armes obliques, demeurera couché, d'abord dessus, puis dessous. Voici donc sur ce pré l'occasion, comme il faut, prématurément, d'en finir. Messieurs les typographes, placez donc ici, je vous prie, le trait final, puis dessous, sans le moindre interligne, couchez mon nom, pris dans le bas de caste, naturellement, sauf les initiales, bien sûr, puisque ce sont aussi celles du fenouil et de la prêle qui demain croîtront dessus. Ici, un trait horizontal et ma signature immédiatement là-dessous. N'est-ce pas ? C'est-à-dire que la signature, c'est l'auteur couché, dont seulement les initiales percent la terre, comme percent la terre les herbes, enfin, qui composent le pré.
Entretien avec Francis Ponge par Philippe Salers. C'était aujourd'hui le 11e entretien, Rupture et révolution culturelle, un matérialisme sémantique, le pré. Assistant Jacques Devin. Vendredi 12 mai à 22h40, 12e et dernier entretien, l'écriture, fonctionnement, objoie, le savon.